On est dans la série sur En chemin vers la résurrection. Je vais me souvenir de toute ma vie de ma première journée d'école. Probablement que mon professeur aussi. Mais j'arrive dans la classe, il y a un garçon, j'ai 5-6 ans, il y a un garçon, il prend ses lunettes puis il lance dans le fond de la classe. En rentrant dans la classe, là, je dis, tu sais, il file pas, lui. Il file pas. Et la journée se passe, puis je vois qu'il est un peu agité, bizarre. Mais à un moment donné, le professeur donne une feuille, puis il dit, faites signer ça par vos parents ce soir. Il lève la main, il dit, moi, j'ai pas de parents. Mes parents sont morts. Et je m'en vais le voir. Je dis, tes parents sont morts. Oui, il dit. Ils ont été frappés par une auto. Je vis avec mes grands-parents. Je vis avec mes grands-parents. Puis ça, ça m'a frappé, ça m'a touché, parce qu'à partir de ce moment-là, je dis, mes parents ne sont pas éternels. Les gens autour de moi peuvent mourir. Et c'est étonnant, paradoxal en même temps, parce que autant qu'il y a de l'excitation autour de la résurrection, mais on ne peut jamais parler de résurrection sans parler de la mort. Et ça peut être un thème lourd, mais sans la mort, il est impossible de parler de résurrection. Et écoutez ça, il faut que la mort existe. Songez ça. Il faut que la mort existe pour parler de résurrection. J'ai un ami qui répète souvent, il y a deux certitudes dans la vie. Il dit la mort, puis l'impôt. Il y a deux certitudes dans la vie, il y a la mort puis l'impôt. Et je suis obligé d'être un peu d'accord, mais la mort n'est pas un sujet agréable. L'impôt non plus, mais la mort n'est pas un sujet agréable. Chaque jour, des gens se lèvent le matin sans savoir comment la journée va se terminer. Sans savoir que ça allait être leur dernier jour, que dans cette journée-là, ils allaient expirer leur dernier souffle. Si vous êtes un parent normalement constitué, quand vous allez border vos enfants pour la nuit, vous ne parlez pas. Parlez pas de la mort. Et souvent même, c'est des enfants qui vont poser la question, ou ça vous est peut-être déjà arrivé avec un de vos enfants, ou ça va peut-être vous arriver. Maman, papa, quand est-ce que tu vas mourir? Et là, la question, quelle question? Quand est-ce que tu vas mourir? Quand tu as le goût d'un souper agréable en famille, tu parles agréable. Tu évites de parler de la mort. En tête à tête, t'évites de parler de la mort, ça risque de plomber l'atmosphère. Cette semaine, j'ai déjà raconté que je joue au hockey sur glace et je joue 2-3 fois par semaine et je suis avec un groupe de garçons, je vais dire ça comme ça, qui sont très rigolos et ils aiment rire, ils aiment avoir du plaisir. Et à la fin de notre match cette semaine, on était dans le vestiaire, puis ça rit, ça se moque des uns des autres, puis on a bien du plaisir. Puis à un moment donné, il y a un gars, il dit François, puis là, c'est François, c'est un gars qui joue avec nous habituellement, puis il dit François, ça fait quelques semaines qu'on ne l'a pas vu. Il est où, François? Et là, il y en a un qui dit, François, il a le cancer. François, probablement qu'on ne le reverra pas ici. Et là, au milieu des rires, des plaisirs de la vie, la mort vient mettre un ombrage. Sans vouloir paraître morbide ou macabre, la mort, c'est comme si elle nous suit tout le temps. Puis à un moment donné, on a l'impression qu'elle est loin. Puis si tu mets pour la première fois les pieds dans un avion, tu as l'impression qu'elle est proche. Et quand tu entends parler de pandémie mondiale, ce que tu pensais loin, à un moment donné, se retrouve proche. Et après ça, tu apprends que la mort te suit. Des fois, elle est loin, mais des fois, elle peut être plus proche qu'on pense. Ça peut être soudain, ça peut être lent. Ça peut être accidentel, rapide, souffrant. Est-ce que je vais avoir le temps d'accomplir des projets? Est-ce que je vais avoir le temps de fonder une famille? Est-ce que je vais avoir le temps de profiter de mes enfants, de mes petits-enfants? Est-ce que je vais vivre longtemps? Et si tu as des enfants à bas âge, tu réalises tous les liens de dépendance qu'ils ont avec toi, puis tu te dis, faudrait pas que je meure. Et trop souvent, à divers degrés, la mort est quelque chose qui est omniprésent dans nos pensées. Parfois chez les gens fréquents, des fois c'est moins fréquent. Mais penser à la mort, chaque humain d'âge de raison, capacité de raisonner, il a déjà pensé. Trop souvent, on oublie que ça va arriver. Tristement, ça prend parfois quelqu'un de près de nous qui nous fait réaliser la fragilité de la vie, et parfois même une fête comme Pâques qui nous rappelle, qui nous replonge dans tout ce qui entoure notre conception de la vie. Et ce matin, on va être dans Luc 23, le récit entourant l'assassinat de Jésus. Et je dis assassinat parce que ce n'était pas une condamnation. C'est un assassinat parce que il n'était pas coupable. C'est une injustice subie pour me permettre d'obtenir une justice. Et le récit nous donne un enseignement sur la vie après la mort. Il existe une vie après la mort physique. À travers notre texte ce matin, on va voir que ta vie, ma vie, ne se limite pas à ce qui est matériel, visuel. Tu existes au-delà de ton corps physique. Ta vie traversera ta mort physique. Ta vie transcende ta mort physique. Ton existence est matérielle et spirituelle, corps et esprit, je vais y revenir. Tu es corps, mais tu es esprit. Ça nous amène à notre texte ce matin. C'est la scène de la crucifixion. C'est toujours un texte qui est difficile à lire. Mais on va être dans Luc 23, puis je vais en lire juste une portion à partir du verset 32. Ça va comme suit. On conduisait deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux, en disant, « Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin, en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait en disant, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Souviens-toi de moi. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le titre du message ce matin, « Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. » Permettez-moi un détour. J'aime beaucoup mes parents. Ils sont toujours vivants, ils ne sont pas ici, ils sont en Floride l'hiver, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mes parents. Quand je pense à mon enfance, on aurait dit que se sont comme donné la mission rapidement de nous faire comprendre, moi, mon frère, j'ai juste un frère, que Walt Disney, ça n'existe pas pour vrai. Là. Que les contes de fées, ça n'existe pas pour vrai. Là. Blanche-Neige, les huit nains, là, ça n'existe pas pour vrai. Là. OK. Mais que tout ce qui est roman à l'eau de rose, les Calinours, ce qui est aujourd'hui les licornes, ça n'existe pas pour vrai, ça, là. Mais c'est comme une mission qui s'était donnée. Et juste pour vous le prouver, moi, c'était pas Yogi l'ours, là. Quand j'étais jeune, mon père écoutait un documentaire, là, puis j'ai peut-être 7-8 ans, là, puis c'est un documentaire sur les grizzlies de l'Ouest canadien, où ce que là, il y a un gars qui témoigne, il a la moitié de la face arrachée, là, puis qu'il s'est fait attaquer, puis c'est pas Yogi l'ours, puis c'est pas les grizzlies, là. Fait que ça, c'est mon enfance, OK? Et même, juste pour vous dire comment j'étais martyrisé, il m'amenait cueillir des fraises et des noisettes. Vous apprenez aujourd'hui que des noisettes, ça pousse au Québec. Ils ont trouvé la place pour cueillir des noisettes. Si vous n'avez jamais cueilli des noisettes, c'est un code DPJ. Mais il m'amenait cueillir des noisettes. Quand il allait quelque part, on nous amenait tout le temps. Quand il allait quelque part, visite à l'hôpital, naissance, maladie, alouette, pratique de chorale de ma mère. J'étais obligé d'y aller, oui. Mais on avait une famille proche de nous. Les enfants avaient à peu près le même âge que nous. Puis leur père, à ces jeunes-là, ces amis-là, lui, il était vraiment cool. Vous savez, vous êtes peut-être des ados dans la salle, dans votre environnement, il y a toujours un père plus cool que les autres. Dans l'environnement de mes enfants, C'est pas moi. OK? Mais lui, là, ce gars puis fille, là, il avait vraiment un père cool. On jouait avec lui, on s'amusait avec lui, il était drôle. Puis eux, ils étaient dans la même école que nous, dans la classe juste à côté. Ils étaient dans les mêmes âges que nous. Et à un moment donné, un lundi matin, ça cogne à la porte de sa classe à Nicolas, puis ça toc, toc, toc. C'est le directeur puis l'assistant directeur. Il cogne à la porte, s'entretient avec l'enseignante, puis il dit, « Est-ce que Nicolas, tu peux venir avec nous, tu peux venir ramasser tes choses? » Son père, cool, était mort d'un accident d'auto. Ce matin-là, à Saint-Augustin, un endroit où mon père passe tout le temps. Mais lui, son père était mort ce matin-là. Et je me souviendrai toujours parce que après ça, il y a eu, c'est une famille qu'on connaissait qui était proche de nous, puis tout de suite après, il y a eu les funérailles. Et je vous ai dit que j'avais 8-9 ans, mais quand mes parents vont quelque part, ils m'amènent. Fait que là, on s'en va au salon mortuaire où ce que là, il n'est pas incinéré, mais il est exposé. Et là, je vois ce papa cool-là, couché dans sa tombe. Puis je regarde de loin son cercueil, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. C'est la première fois que je voyais une scène de deuil. C'est la première fois que je voyais un mort. C'est le papa cool de mon ami, puis mon ami est debout à côté, sidéré. Sidéré. Et là, le pasteur s'installe avec le micro, avec le lutrin, puis il prend la parole au funérailles. Je lui dis, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que quelqu'un peut dire dans ce moment-là? Et ça m'a resté marqué. Il dit, il ne faut pas se cacher ce qui se passe actuellement. Il dit, vous fiez pas à ce que vous voyez. Yves, qui était le papa cool de mon ami, il dit, il n'est pas là. Son corps terrestre est là, son véhicule terrestre est là, mais Yves, son esprit, n'est pas là. Il n'est pas là. Il dit, il a été rappelé auprès de Dieu, il est avec Dieu. Son esprit, il n'est pas là. C'est la première fois dans mon souvenir que je venais prendre conscience vraiment de cet aspect de la vie humaine. Ton esprit est là dans ton corps, tant et aussi longtemps que ton corps est vivant et ton souffle est entre les mains de Dieu. La parole de Dieu dit que ta vie appartient à Dieu. Il t'a créé, il t'a façonné, ton souffle lui appartient. Job 12, 10 dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Il le tient dans sa main. Quand ton corps, ton âme, ton esprit, ta dimension immatérielle est entre les mains de Dieu, mais ton souffle, ta respiration, ce qui fait que ton corps vit, est entre les mains de Dieu. Voici ce que la Bible dit à propos d'Étienne qui a été lapidé dans Acte 7. Il jetait des pierres à Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, il sait qu'il va mourir. » Il dit, « Accueille mon esprit. » Et même Jésus à la croix, au verset 46 de Luc 23, Jésus s'écrie d'une voix forte et dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. » Puis il expira. Après ces paroles, il expira. Et jusqu'à aujourd'hui, cette idée de la vie continue après la mort, on le veut ou non, c'est comme encodé en nous-mêmes. Le souffle, notre chair, notre vie terrestre est attaché pour un temps à notre existence jusqu'à ce que la mort humaine arrive. La Bible dit que nous avons été créés comme ça. Ecclésiaste, qui était un livre de la Bible juste avant les psaumes qu'on attribue souvent au roi Salomon, va venir dire ça, là, comment c'est encodé en nous-mêmes. Il dit, chapitre 3, verset 10, « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. » 11, « Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. » Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Salomon dit que Dieu, à un moment de l'existence de chaque humain, il place, vient déposer dans le cœur, dans l'intangible, dans l'être spirituel, dans l'immatériel, la pensée, la réflexion, le questionnement sur l'éternité. Ce qui dépasse le temps, ce qui dépasse ma vie, ce qui dépasse ta vie. Cette pensée est encodée par Dieu dans ton être, dans ton toi qui n'est pas matériel. Et ça vient de la création. Parce que de façon progressive, mais rapide, du début du récit de la création, en passant par la chute, le moment de désobéissance au commandement de Dieu, la chute, en passant par tous les récits bibliques de l'Ancien Testament, nous pouvons voir que Dieu a créé la terre à partir de l'invisible. Il existe le matériel, mais il existe aussi l'immatériel. Et chaque homme, chaque être humain est créé comme ça. Il existe le matériel, mais il existe la dimension immatérielle. Et Hébreux 11:3, par rapport à la terre, il dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » Et nous pouvons voir aussi la dichotomie de l'homme dans la création, le fait d'être matériel et esprit. Dans Genèse 2, versets 7 et 19, il dit « L'Éternel, Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insouffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » Et pour les animaux, il dit « L'Éternel façonna à partir de la terre tous les animaux. » Mais pour l'homme, il a donné le souffle de Dieu, cet aspect éternel de l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu es vivant au-delà de ton souffle. Tu es vivant au-delà de ton souffle. Au-delà de ta vie terrestre, tu vas continuer d'exister. Lorsque ton souffle s'éteindra, quand tu vas expirer, tu vas continuer d'exister. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque Dieu t'a créé, avec ton souffle, puis il tient dans sa main le souffle, il t'a créé avec un projet qui n'a pas de fin. Il t'a créé avec un projet qui n'a pas de fin. Alors, si tu es capable de prendre une respiration aujourd'hui, tu peux dire « Je suis un projet de Dieu. Je suis un projet de Dieu. » Ton souffle est une intention de Dieu. Il est tenu par Dieu. Tu prends un respect, c'est que Dieu a un plan pour toi. Tu prends une respiration, Dieu a un projet pour toi. Est-ce que Dieu se soucie de moi? C'est sa main qui me permet de respirer. Est-ce que Dieu est proche de moi? C'est sa main, c'est sa volonté qui me permet de prendre un souffle. Est-ce que Dieu veut que je vive? C'est sa main qui te permet de prendre cette respiration-là. Ton souffle est entre les mains de Dieu. Ton esprit, le souffle de Dieu est entre ses mains. On peut parler de la mort ce matin, mais tu peux dire, je suis vivant. Je suis vivant. Puis ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, je suis vivant. Je suis vivant, dis-y. Je suis vivant. Je suis vivant. C'est difficile de se projeter dans les événements de la crucifixion sans s'arrêter à la mort. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas le genre à aimer regarder des scènes sanglantes. Vous n'êtes pas le genre... Il y en a, on aurait dit qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Mais moi, j'ai de la misère avec ça. Les films, tout ça, j'ai bien de la misère avec ça. À un moment donné, on était chez mes grands-parents dans le Bas-Saint-Laurent, dans un village, puis les mononcles, les matantes, les cousins, les cousines. Puis là, on apprend que les ongles arrivent et disent « Chez tel cultivateur, chez tel fermier, là, demain matin 9h, là, il saigne un cochon. On y va! » Et quand je l'ai dit, mes parents... Quand ils vont quelque part. Mais là, ma mère s'est opposée. ma mère s'est opposée, OK? Le spectacle, ce genre de spectacle-là, pas cool, OK? Je suis pas allé, OK? Mais le spectacle de la crucifixion romaine ne laissait personne indifférent. C'est tellement cruel et sauvage que l'ensemble de la population de Jérusalem, ce jour-là, qui se préparait pour le sabbat, pour la fête de Pâques, ne pouvait pas ignorer en raison de tout le bruit qui se passe autour. De la cavalerie romaine, des gardes juifs, des armées, ne pouvait pas ignorer que ça allait être une journée très sanglante. Très, très, très sanglante. Luc va mettre une emphase particulière sur le discours des divers groupes de personnes qui se retrouvent spectateurs de la crucifixion. Il vient nous rapporter clairement le dialogue qui existe à ce moment-là autour de la croix ou des croix, il y a trois croix, il vient nous rapporter ce dialogue-là. Dans le verset 35, le peuple, on l'a lu ensemble, Stenella, là, il regarde et avec les magistrats, il se moque de Jésus. Les soldats se moquent de Jésus. L'un des malfaiteurs qui l'insultait se moque de Jésus, il dit. Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre, verset 40, il dit, le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? » N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Celui-ci n'a rien fait de mal. Dans les textes bibliques, il y a beaucoup d'emphase mise sur le fait que Jésus n'était pas crucifié seul. Et les textes ne mentionnent pas seulement qu'il y en avait d'autres. Un, trois, quatre. Les textes bibliques mentionnent qu'il y en avait deux. Il y en avait deux. Ce n'est pas un détail auquel il faut passer par-dessus comme si c'était ça avait aucune incidence dans l'histoire. Si vous croyez qu'il peut avoir des hasards, ce n'est pas dans cette période-là qu'est le centre du plan de Dieu pour l'humanité, plan décrété et annoncé d'avance par les prophètes, avec un plan avec autant de précision d'incidence pour l'histoire de l'humanité, pour ta vie, pour ma vie. Il n'y a rien là qui est laissé au hasard. Il y a deux personnes, deux malfaiteurs, deux brigands qui sont crucifiés avec le Seigneur Jésus. Et il y en avait deux. Malgré la foule, malgré les soldats, malgré le peuple, l'ensemble de l'humanité, écoutez ça, peut être représenté. L'ensemble de l'humanité, vous, moi, l'ensemble de l'humanité peut être représenté dans ces deux brigands-là. Soit t'es l'un, soit t'es l'autre. Soit t'es l'un, soit t'es l'autre. Tu peux te retrouver dans ce qui est représenté dans ces deux gars-là, dans leur compréhension, dans leur discours. Tu peux te retrouver dans la conception du monde de ces gars-là, dans l'état de leur discussion avec Jésus. En quatre petits versets, elle dépeint le portrait de la réaction de l'humanité face à Jésus. En quatre versets, là, on retrouve ce qui est le portrait, l'image de ce que toi et moi, on dit de Jésus, on fait de Jésus. C'est pour ça que Luc prend la peine de nous détailler ici leur conversation, puis j'aimerais le relire au verset 39. Il dit, l'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultant en disant, « Si tu es le Messie, il ne croit pas. » Jésus est là, visiblement il attire les foules, visiblement il y a quelque chose qui se passe avec lui. Mais il ne croit pas. « Sauve-toi toi-même, prouve-le, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenant en disant, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? » L'autre à côté dit, « N'as-tu aucune crainte de Dieu? » Il dit, « Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » D'un côté, il y a ceux qui doutent. Ils ont une conception purement terrestre des événements entourant la croix. Si tu es le Messie, si tu es, prouve-le. Prouve-le ici et maintenant, dans notre vie terrestre, que tu mérites qu'on croit en toi. Prouve-le. Ça fait référence au doute. Fais un miracle ici et maintenant, la façon dont moi je te dicte de le faire. Et tu fais peut-être partie de ceux-là. Moi, j'ai déjà fait partie de ceux-là. Il exige que Jésus se conforme à ses propres plans. J'ai un ami qui est en affaires, puis il sait qu'il connaît ma foi. Puis à un moment donné, il est là, il dit, oh, là, il est sur le bord d'avoir peut-être un contrat. Puis il dit, oh Seigneur, donne-moi le contrat, je n'ai besoin, donne-moi le contrat. Mais je dis, crois-tu en Dieu? Oui. Mais il croit dans le Dieu que lui s'est façonné. Il croit dans le Jésus que lui a décidé de qui Jésus est. Est-ce qu'il croit réellement en Jésus, en Dieu? Non. Non, parce qu'il croit dans sa conception que lui s'est fait de Jésus. Dans sa compréhension que lui s'est fait de Jésus. Et ça, c'est un piège, et c'est le piège d'un des brigands à la croix. C'est qu'il s'est mis à douter et à dire, « Si t'es Jésus, si t'es Dieu, tu vas faire ça comme ça. Tu vas me le donner, le contrat. Tu vas me donner un conjoint. Tu vas me donner, manifeste-toi à moi dans ma vie terrestre, ici et maintenant. » Il croit en Jésus qui s'est façonné. Si tu existes, fais ça. Si tu existes, fais ci. Si tu existes, Dieu, prouve-le. Enlève la souffrance que je souffre présentement. Enlève l'épreuve que je vis présentement. Ça, c'est sa conception de dire, si il fait ça à ma façon, je vais croire. Ça, c'est un des malfaiteurs. Mais l'autre malfaiteur, l'un à gauche, l'autre à droite, les Écritures nous disent que son mindset a changé. Parce qu'à un moment donné, il insultait Jésus comme l'autre bord. Mais à un moment donné, dans les trois premières heures de la crucifixion, sur la croix à côté de Jésus, en train de souffrir là, sa pensée change, sa vision de la vie change, sa conception du monde change, sa conception du règne de Jésus change. Il a réalisé son erreur et là, cloué sur la croix, à côté de Jésus, il a pris action. Il a pris action. Il a reconnu que l'œuvre de Dieu dépasse la mort terrestre ou la vie terrestre. Parce que l'autre bord, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi, puis sauve-nous. » Mais si Jésus fait ça, il obéit à une conception de Jésus qui est fausse. Mais l'autre qui a compris, non, n'as-tu aucune crainte de Dieu? Tim Keller, un théologien connu, dit on interprète souvent le mot crainte parce que oui, il y a une notion de révérence, de peur, mais il y a une notion dans le mot crainte d'un total abandon à Dieu. Et là, sur la croix, il dit, n'as-tu aucune crainte de Dieu? Toi qui subis la même condamnation que Dieu, que Jésus qui est là. N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis? Il a réalisé que sa vie ne tenait pas juste à son souffle. Parce qu'il n'a pas demandé à être sauvé là, maintenant, de ses souffrances, de ses épreuves, de sa conception. Il dit, n'as-tu aucune crainte? L'abandon total. Dieu est crucifié avec lui. Il dit, pour nous, c'est justice. Il dit, moi, je subis une punition, puis je la mérite. Puis je la mérite. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il a reconnu la sainteté de Jésus. Il a reconnu la sainteté. Puis ça, c'est important. C'est important. Et dans une toute petite déclaration, une toute petite phrase qui se veut une révélation de toute la foi qu'il a mis en Jésus. Et je prie que cette phrase-là puisse être, cette prière-là ce matin, tu puisses te l'approprier. Une petite phrase qui démontre que tout ce que tu as cru par rapport à Jésus change en ce moment. Dans cette phrase-là, si tu en avais juste une à retenir, c'est celle-là. Parce que sa prière nous a été donnée pour que nous puissions la comprendre et la déclarer. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu vas venir dans ton règne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour lui, là, ça veut dire qu'il sait que Jésus va triompher. Parce qu'il dit, souviens-toi de moi, parce que ça n'arrête pas là. Quand tu vas venir régner, souviens-toi de moi. Et étendu sur la croix, il a réalisé que Jésus, c'est Dieu fait homme, et qu'il y a plus ici qu'un homme mort sur une croix. Que Jésus est celui qui va régner. Et celui qui est le roi. Qui est celui qui est Dieu fait homme. Il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu vas venir régner. En disant ça, il déclare que Jésus a le pouvoir de donner la vie éternelle. Malgré le fait qu'il n'a pas embarqué dans le discours de l'autre, il dit « Sauve-nous maintenant, ici et maintenant », il a embarqué dans cette foi-là en Jésus, que c'est lui étendu à côté de moi, qui a le pouvoir, pendant que je suis en train de mourir, de me vider de mon sang, dans cette épreuve-là, c'est lui qui a le pouvoir de me donner la vie. C'est lui qui a le pouvoir de me donner la vie. Il reconnaît que Jésus est le roi et qu'il va triompher. Souviens-toi de moi. Jésus lui répondit. Jésus n'a pas répondu à l'autre, mais à lui, il va y répondre. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette phrase-là est puissante parce que lui, tout ce qui a été reconnu, ce qu'on a reconnu de sa vie, c'est tout le mal qu'il a fait. Il n'a pas eu le temps de faire assez de bien. Il n'a pas eu le temps de faire assez de bien. Mais sa déclaration de foi, « Souviens-toi de moi quand tu vas venir dans ton règne », est la preuve que juste un moment où tu places ta foi en Jésus, un moment, et Jésus peut dire, « Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. » Et le mot grec, « paradis » qui est là, qui ont essayé de trouver l'étymologie en hébreu, c'est le même mot que « jardin d'Éden », le lieu où il y a une pleine communion, une pleine restauration, le lieu où est la présence de Dieu. Aujourd'hui, Jésus lui dit, « Tu vas être avec moi, Dieu, dans le paradis. » Aujourd'hui, je restaure cette relation-là avec toi, avec ton humanité. C'est le lieu, la croix, où la mort est réconciliée avec la vie. Il perd son souffle. Il a perdu son souffle. Mais Jésus lui a donné la vie. La vie. Et le matériel, ça va s'éteindre. Ça va mourir. Mais ton esprit, ton toi, l'immatériel va vivre. Tu peux décider de vivre comme lui, qui dit Jésus, si tu existes, tu vas faire ça comme ça, tu vas faire ça comme ça dans ma vie terrestre, tu vas me sauver de ça, tu vas faire ce que moi je te dis dans cette vie terrestre-là. Ou de dire à Jésus, souviens-toi de moi, parce que je sais que tu es le roi, je sais que tu es crucifié injustement, je sais que tu vas régner éternellement, je sais que tu es le Dieu fait homme. Souviens-toi de moi. C'est ce que ça s'appelle de passer de la mort à la vie. C'est passer de la mort à la vie. Les autres évangiles ne font pas état de ce brigand qui a changé d'idée. Ils le dépeignent comme un insulteur. Mais pourquoi Luc arrive avec ça? Pour démontrer que ça se peut de changer. Ça se peut de changer. Tu n'es pas là avec aucune décision à prendre. Les brigands étaient là au début, je lirai les autres évangiles, ils étaient en train d'insulter comme l'autre. Mais à un moment donné, il y a quelque chose, Dieu a changé quelque chose dans sa compréhension de l'œuvre de la croix. Et je suis convaincu que ce matin, Dieu veut changer quelque chose dans ta compréhension de l'œuvre de la croix. C'est possible de changer. Un revirement de situation est possible. Il suffit d'un instant de révélation, un instant de compréhension comme ce brigand-là. Comme ce brigand-là. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. Et dans cette simple prière, souviens-toi de moi. C'est trouver la clé de la vie pour ce brigand-là. La clé, écoutez ça, de la présence de Dieu pour l'éternité. Dans cette prière-là, souviens-toi de moi. Et c'est peut-être ton cri ce matin. Au milieu de tes souffrances à toi, peut-être que d'un côté, tu levais le poing contre Dieu, mais de l'autre côté, au milieu du cri de tes souffrances, au milieu de ta misère, Il y a quelque chose en toi qui dit, qui a le goût de dire, Jésus, souviens-toi de moi. Viens me sauver. Viens me sauver. Je vais vous inviter à courber votre tête, à fermer vos yeux et à prier avec moi. Jésus, je reconnais, je crois que tu as triomphé de la croix. Jésus, je reconnais que tu es Dieu fait homme. Qu'il y a plus ici dans cette histoire-là qu'un homme mort sur une croix. Mais que c'est ce le roi qui règne, qui a été crucifié, afin que tu puisses me dire, Jésus, aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. Je reconnais, Jésus, que tu as le pouvoir de donner la vie éternelle. Entends mon cri du cœur. Entends mon cri du cœur. Je sais que je mérite la séparation d'avec toi. Je t'ai déshonoré, je t'ai obéi. J'ai péché. Mais comme lui, je fais une demande personnelle. Je ne dis pas « sauve-nous ». Non. Je dis « souviens-toi de moi quand tu viendras régner ». Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui même, tu vas être avec moi au ciel. » Au ciel. Est-ce qu'on peut célébrer ceux qui ont fait cette prière-là? « Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Jésus. » Et je vous donne un dernier verset pour la route. Éphésiens 2, écoutez ça dit, verset 4. « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ.